Radio Okapi.
Bienvenue à votre journal de 12h, heure de Kinshasa. Pas de paix depuis plus de 2 semaines à Kisimba, Wachali Mokoto, à la frontière entre Walikale et Masisi dans le Nord Kivu. La nuit dernière encore, FC-123 et Wazalendo s'y sont battus. Pour l'heure, un calme relatif règne. Depuis ce matin, la population, elle, est terrifiée. En Ituri, les autorités politico-administratives sont en formation depuis mercredi à Bunia. C'est pour renforcer la sensibilisation des communautés et lutter contre la désinformation qui freine la riposte. Cette formation est organisée par le gouvernement provincial avec l'appui d'Africa CDC. Avec notre invité, Papi Kasereka, analyste des crises et des conflits dans l'Est de la RDC, nous revenons sur la rencontre qui a réuni la semaine dernière à Kisangani les gouverneurs et responsables des services de renseignement du Nord Kivu, de la Tchopo ainsi que du Haut et du Bas Ouélé pour mieux coordonner les actions contre les ADF. Madame, Monsieur, bonjour. Nous ouvrons ce journal au Nord Kivu. La situation sécuritaire et humanitaire demeure préoccupante aujourd'hui et jeudi au village de Kalongé, Kalembe, Luanga et dans leurs environs. Nous sommes là dans le groupement de Kisimba dans le territoire de Walikale et de Bacha de Mokoto dans le territoire de Masisi. C'est dans des sources locales de violents affrontements ont opposé la nuit l'FCM23 à une coalition de groupes Wazalendo dans la zone. Ronaldine Tibonera pour les détails.
Depuis plus de 2 semaines, cette zone frontalière entre Masisi et Walikale est le théâtre des violences armées récurrentes. Un calme relatif mais fragile est observé depuis la matinée de ce 9 juillet, indiquent plusieurs notables locaux. D'après ces sources, les combats ont éclaté vers 23h lorsque les Wazalendo ont lancé des attaques simultanées contre les positions de l'FSA-M23 dans le village de Kalembe, Kalongé, Kivuye et Mpati. Les échanges de tirs à l'arme lourde et légère se sont poursuivis jusqu'aux environs des 4h du matin, provoquant un mouvement de panique au sein de la population contrainte de se confiner à domicile. Quelques familles ont néanmoins quitté leurs habitations pour trouver refuge, notamment aux abords du centre de santé de Kalembe. Elles seraient retournées chez elles après le retrait des assaillants et la calmie observée au lever du jour. Malgré ces retours au calme relatif, la crainte reste vive au sein de communautés locales. Ces affrontements surviennent quelques jours après une série d'incidents similaires dans la zone. La semaine dernière, plusieurs habitations civiles avaient été incendiés à Kasake, Shangui et Rukenge lors d'opérations attribuées à l'AFC-M23. Des sources coutumières de Bachali Mokoto évoquent un bilan d'au moins 26 civils tués, certains ayant péri dans l'incendie de leur maison ou à la suite des frappes des drones.
Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, exprime sa profonde inquiétude face aux combats qui se poursuivent dans la province du Sud Kivu. Ces affrontements opposant les rebelles du M23 FRDC dans les territoires de Mwenga et de Fizi sont à l'origine de l'aggravation de la crise humanitaire, une situation qu'il juge préoccupante. Il appelle à une désescalade immédiate et au retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Ces nouvelles de Ronaldine Tibonera sont rendues par Jean Gandou.
Dans un communiqué publié jeudi, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, s'est alarmé de l'intensification des combats entre les FRDC et les rebelles du M23, soutenus par les forces de défense rwandaises dans les territoires de Fizi et Mwenga au sud Kivu. Selon lui, l'utilisation d'armes lourdes dans des zones habitées a causé des morts, des blessés et la destruction d'habitations tout en provoquant de nouveaux déplacements des populations. Volker Türk appelle les parties en conflit à cesser immédiatement les attaques contre les civils. Il exhorte également le Rwanda à mettre fin à son soutien au M23 et à retirer ses troupes du territoire congolais. Il invite par ailleurs les autorités congolaises à poursuivre les efforts de désarmement des groupes armés. Le haut commissaire demande enfin aux acteurs régionaux et à la communauté internationale de soutenir les initiatives diplomatiques afin d'éviter une nouvelle escalade de la violence dans l'est de la RDC. Cette déclaration intervient alors que le M23 affirme avoir pris le contrôle 2.0, une information rejetée par les FRDC qui évoque un retrait tactique destiné à protéger les populations civiles.
3 militaires des FARDC ont été condamnés chacun à 20 ans de prison pour le viol collectif d'une femme. Le verdict a été rendu à l'issue d'audiences foraines organisées il y a 2 jours au village de Kimbulu, territoire de Lubero au Nord Kivu. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'impunité des auteurs de violations de droits humains au sein des forces de défense et de sécurité. Martial Papimoukiba nous en dit un peu plus sur cette affaire.
Les trois militaires condamnés appartiennent à la 21e brigade des défenses principales des FARDC. Le tribunal militaire de garnison de Butembo-Lubero les a reconnus coupables du viol collectif d'une femme de 28 ans dans le village de Kimbulu en territoire de Lubero. Les faits remontent dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Selon la justice, la victime regagnait son domicile après son travail lorsqu'elle a été agressée. Un premier militaire a été arrêté à la suite de la dénonciation de la victime. Lors de l'audience en flagrance, ces déclarations ont permis d'identifier puis d'arrêter des autres militaires poursuivis comme co-auteurs du viol. Le tribunal a également infligé aux condamnés une amende de 250 000 francs congolais chacun pour frais de justice ainsi que le paiement solidaire de 10 000 dollars américains des dommages et intérêts à la victime. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Nous sommes en Ituri. Les autorités politico-administratives sont appelées à jouer un rôle actif dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola et participent depuis mercredi à une session de formation organisée par le gouvernement provincial avec l'appui de Africa CDC. Objectif, renforcer la sensibilisation des communautés et lutter contre la désinformation, les fausses rumeurs et la méfiance qui freinent la riposte. Isaac Rimaud.
Pour les responsables d'Africa CDC, la lutte contre Ebola commence et se termine au sein des communautés, d'où la nécessité d'impliquer davantage les autorités de proximité dans la sensibilisation des populations. Chef des 10 maisons, chef d'avenue, chef de quartier, bourgmestre et administrateur des territoires sont ainsi appelés à relayer les messages de prévention et à encourager un changement de comportement face à l'épidémie. Au cours de cette session, les participants ont également été formés aux techniques de communication afin de mieux lutter contre les fausses rumeurs, la désinformation et les réticences qui freinent les efforts de la riposte, un des formateurs.
Avec l'arrivée d'Ebola, chaque famille, chaque quartier sont en train de pleurer jour après jour. Il est important de pouvoir arrêter le plus tôt possible la transmission de cette maladie qui est meurtrière.
De son côté, le gouverneur militaire de l'Ituri a rappelé que la résurgence d'Ebola constitue une menace sérieuse pour la santé publique ainsi que pour la stabilité économique et sociale de la province. Le général Gabingo Ikasongo a invité les participants à devenir des véritables ambassadeurs de la lutte contre Ebola dans leur communauté.
J'attends de chacun de vous un engagement total. Chaque quartier doit être informé. Chaque famille doit être sensibilisée. Chaque cas suspect doit être signalé rapidement afin d'empêcher toute propagation de la maladie.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Justement, le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, est arrivé à Bounia hier pour une mission consacrée à la riposte contre l'épidémie d'Ebola qui sévit en Ituri. Son agenda prévoit entre autres une séance de travail avec les équipes engagées dans la lutte contre la maladie. Cette visite intervient dans un contexte marqué par des tensions au sein de la riposte. Plusieurs prestataires réclament en effet des meilleures conditions de travail et dénoncent notamment le non-paiement de leurs primes, les disparités salariales ainsi que des difficultés logistiques. Parallèlement, les appels à l'aide se multiplient en Ituri, où les communautés signalent des décès communautaires et des retards dans les enterrements dignes et sécurisés faute de moyens. De nombreux enfants de la zone de santé de Masuika dans le territoire de Luisa au Kasaï central ne possèdent pas d'acte de naissance. Certains parents ne l'exigent pas et pour les sensibiliser, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance met à la disposition des agents des enfants chargés de la sensibilisation des parents, des motos et autres vélos pour faciliter leur mobilité. L'objectif visé est de permettre aux enfants d'avoir des actes de naissance qui justifient leur filiation. De point avec André Katendengalamoulumé.
La zone de santé de Masuika est située à près de 200 km du chef-lieu. Pour atteindre le village, les agents de l'état civil doivent souvent parcourir des longues distances à pied. Dans cette partie de la province, de nombreuses femmes accouchent à domicile ou dans des structures de santé ne disposant pas des services d'enregistrement des naissances. Conséquence, beaucoup d'enfants ne possèdent pas d'acte de naissance, un document pourtant essentiel pour établir leur identité et leur filiation. Les agents de l'état civil sont contraints d'effectuer des longs déplacements afin de rejoindre les officiers habilités à signer les actes établis. Plusieurs enfants grandissent ainsi sans être enregistrés dans les registres officiels. L'UNICEF, en partenariat avec la division provinciale de l'intérieur, a remis mardi 10 motos et 30 vélos aux agents de l'état civil des secteurs de Lusanza, Luachi et Kalonga. Grâce à cette dotation, les équipes pourront accéder plus facilement aux villages les plus plus enclavées et rapprocher les services de l'état civil et des communautés. L'objectif est de permettre à chaque enfant d'obtenir une identité légale dès sa naissance. Kananga, André Katendengala Mouloumé, Radio Okapi.
Apprendre la langue des signes pour mieux se comprendre et mieux vivre ensemble, c'est le pari de l'école Espérance pour sourds qui ouvre ses formations au grand public dans la ville de Matadi au Congo central. Les personnes sourdes font encore face à de nombreux obstacles pour communiquer au quotidien. Pour y remédier, cette école conventionnée catholique, la seule dédiée à l'éducation des enfants sourds dans la ville, mise sur l'apprentissage d'un langage commun entre sourds et entendants. Comment la population réagit-elle à cette initiative? Quel accueil réserve-t-elle à cette opportunité d'apprentissage? Réponse avec Élise Cavira.
Parler avec les mains n'est pas un réflexe pour tout le monde. Pour une personne entendante, apprendre la langue des signes demande de la volonté, du temps et de la détermination. Mais à Matadi, de plus en plus de citoyens sont prêts à faire cet effort afin de mieux communiquer avec les personnes sourdes. C'est le cas de Christiane Mangitukulu, mère de famille, qui se dit intéressée par les formations proposées à l'église Fatima dans le cadre des activités de l'école Espérance pour sourds.
J'avais attendu après l'annonce que les formations avaient déjà commencé ici. Je vais m'organiser. Je commencerai à la prochaine session.
D'un autre côté, Emiline Passy rappelle que le manque de moyens financiers peut décourager certaines personnes d'apprendre la langue des signes malgré leur bonne volonté.
C'est une belle initiative. Peut-être avec le soutien de partenaires, tout le monde pourra accéder à cette opportunité de formation indépendamment de ses moyens.
Le directeur de l'école Espérance pour sourds, Giscard Massemi, appelle les autorités à soutenir cette initiative afin de faciliter l'accès à la formation et à l'inclusion sociale des personnes sourdes. Matadi, Elise Kavira, Radio Okapi.
La saison sèche se fait durement sentir à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Parmi ses conséquences figure la rareté de légumes sur le marché de la ville. Les vendeurs expliquent que l'absence de pluie a détruit une grande partie des cultures dans des champs où ils s'approvisionnent. Les quelques légumes encore disponibles se vendent désormais à des prix élevés. Trois bottes de sombé ou feuilles de manioc peuvent atteindre jusqu'à 5000 francs congolais, alors qu'il y a peu coûté 1000 voire 1500 francs. Face à cette flambée de prix, de nombreux ménages se disent contraints de modifier leurs habitudes alimentaires au risque de ne plus répondre aux besoins nutritionnels de leurs enfants. Une situation qui inquiète plusieurs familles, nous dit Florence Kizalunga.
Différentes variétés de légumes verts, notamment les amarantes, se font de plus en plus rares sur le marché des Kindu. Les ménageurs disent faire face à des sérieuses difficultés pour nourrir leur famille. Rencontré au marché RVA, Jean Asakamba témoigne.
Maman, j'achète 3 colis de sombé à 5000 francs. Incroyable mais vrai. Que Dieu nous vienne en aide. Nous qui avons des grandes familles, on ne sait pas comment on va vivre.
Selon le vendeur, cette hausse de prix est directement liée à la baisse de production dans le champ.
Maman,
les sombés dans les champs ont séché, difficile d'en trouver. C'est pourquoi il y a hausse des prix. Pour les chefs de ménage, cette situation représente une charge de plus en plus difficile à supporter.
Pour nous qui vivons autour du jour, 10 000 francs suffisaient. Je suis maçon, où est-ce que je trouverai 20 000 francs, 30 000 francs par jour pour la ration? Donc c'est compliqué.
À Kindu, un plat de foufou accompagné de sombés, autrefois accessible à tous, tend aujourd'hui à devenir un luxe pour de nombreux ménages. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Les experts comptables entendent jouer un rôle de premier plan dans le développement économique du pays et au-delà de la tenue des comptes. C'est le message principal du deuxième congrès de l'Ordre national des experts comptables de la RDC au NEC, ouvert hier mercredi à Kinshasa. Les assises se poursuivent jusque demain vendredi autour du thème « Le professionnel comptable, acteur clé de la croissance économique et de la transparence financière ». Le point avec Justine Moussaopondé.
Quand les comptes d'une entreprise sont fiables, elle inspire davantage confiance aux banques, aux investisseurs et à ses partenaires. Ce principe vaut aussi pour les finances publiques. C'est autour de cette idée que s'est ouvert le deuxième congrès de l'Ordre national des experts comptables de la RDC. Pendant 3 jours, experts comptables, autorités publiques, chefs d'entreprise, universitaires et partenaires techniques participent à des conférences, des panels, des ateliers et des stands d'exposition consacrés notamment à la gouvernance financière, à l'intelligence artificielle, à la digitalisation, aux normes internationales et à la lutte contre le blanchiment de capitaux. À l'ouverture des travaux, le président de l'Ordre national des experts comptables, Jean-Marie Toumba, a rappelé que le professionnel comptable contribue à améliorer la gouvernance et à assainir le climat des affaires. Le président de la Fédération internationale des comptables, pour sa part, a estimé qu'une information financière fiable favorise les investissements et renforce la confiance des citoyens et des partenaires économiques. Il a encouragé la profession comptable congolaise à poursuivre sa modernisation face aux défis de l'intelligence artificielle et des nouvelles normes internationales.
Actualité internationale.
Le Fonds monétaire international FMI a revu légèrement à la baisse ses prévisions de croissance mondiale, tablant désormais sur une progression de 3% en 2026. L'institution prévient que les tensions au Moyen-Orient, notamment autour du détroit d'Ormuz, pourraient accentuer le ralentissement économique en provoquant une hausse des prix de l'énergie, un durcissement des conditions financières et une aggravation de l'insécurité alimentaire.
L'invité.
Les gouverneurs et responsables des services de renseignement du Nord Kivu, de l'Ituri, de l'Atchopo, du Haut-Uele et de Bazuele se sont réunis du 2 au 4 juillet à Kisangani. Objectif, renforcer la coordination régionale et le partage des renseignements pour mieux lutter contre les ADF, groupes armés affiliés à l'organisation État islamique. Quelle retombée cette initiative peut-elle avoir sur la sécurité des populations dans l'Est de la RDC? Nous en parlons avec Papi Kasereka, analyste de crise et de conflits dans l'Est de la RDC. Il répond aux questions de Martial Papi Mukeba.
Papi Kasereka, bonjour.
Bonjour.
Les autorités misent sur une meilleure coordination entre les provinces concernées par l'activisme des ADF. En quoi cette approche régionale peut-elle changer la donne dans la lutte contre ces groupes armés?
Je suis d'abord très heureux le fait que les autorités misent sur cette approche parce que nous déjà, lorsque nous avons publié les rapports d'analyse localisée des conflits à Beni, on avait effectivement identifié ce problème de coordination entre les différents acteurs œuvrant dans la protection des civils dans la région de Beni. Et ceci peut être efficace dans la mesure où ça va aider les autorités d'abord à anticiper les menaces des groupes armés parce que ça va permettre qu'il y ait une certaine cartographie des groupes armés, mais aussi de leurs zones d'influence. Mais aussi, ça va aider de comprendre en fait les zones d'influence des groupes armés. Par-delà, ça aidera aussi à orienter les actions de prise de décision parce que vous savez que sur base des renseignements qui sont partagés par exemple à temps réel, si toutes les provinces ont le même renseignement sur les groupes armés, ça va aider à ce qu'il y ait la prise de décision stratégique militaire sur le plan diplomatique à temps réel. Donc, et c'est très important parce qu'on fait les opérations sur base des renseignements.
Le partage des renseignements, comme tu viens de le dire, figure parmi les principaux acquis de cette rencontre. Pourquoi est-il si déterminant dans les opérations contre les ADF?
Là, c'est des décisions qui ont été prises en termes de méthodes de travail, en termes de recommandations. Maintenant, ça sera important de la mesure aussi les autorités, effectivement, arrivent à mettre cela en pratique. Pourquoi? Parce que nous savons, par exemple, les ADF, depuis un temps, se promènent en petits groupes et ils ont abandonné leur position classique des camps où ils étaient basés. C'est des petits groupes qui opèrent en termes de mode asymétrique. Donc, c'est très important de partager les renseignements parce que ça va aider, par exemple, à couper les sources de financement parce que les ADF fonctionnent grâce à l'économie illicite. Et donc, si on arrivait à partager les renseignements, par exemple, aller avec des bois qui doivent sortir, on sait que les bois ici appartiennent, par exemple, aux ADF, c'est très important de couper les sources de financement des ADF et ceci aura donc un impact, ça va rendre donc les ADF plus ou moins inefficaces parce qu'on a coupé leurs sources de financement dès le départ. Du point de vue opérationnel et tactique, c'est aussi important. Nous savons que ça bouge en petits groupes particulièrement pour ce qui concerne les ADF. Ceci aura l'impact de la mesure où les ADF, quand ils opèrent, par exemple, en petits groupes de 20, de 50, c'est très important que les autorités du Nord qui partagent ces informations à temps réel, parce que les gens voient toujours les ADF quand ils se promènent, ils disent qu'ils prennent telle direction, et que de l'autre côté, qu'on essaie de prendre des dispositions militaires, de les attendre, et à ce moment, on peut les prendre dans les filets et les neutraliser. C'est très important de continuer à travailler en synergie pour la plupart des provinces qui sont concernées par le même problème et par le même groupes armés. Il faut anticiper les mouvements des groupes armés et de réduire leur capacité d'action, parce que si on anticipe les menaces des groupes armés, ceci aura comme impact de réduire leur capacité à tuer les civils.
Malgré plusieurs années d'opérations militaires, les ADF continuent de mener des attaques. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles qui empêchent leur neutralisation durable?
Les FARDC font face à plusieurs opérations militaires qui sont au même moment et dans plusieurs régions. Le fait qu'il y a plusieurs opérations militaires, ceci fait en sorte qu'il y ait dispersion des ressources, des moyens de l'enseignement, mais aussi la logistique. De temps en temps, lorsqu'il y a des réorientations des troupes, ça fait en sorte qu'il y ait des EDF et parfois des fenêtres stratégiques où ils peuvent opérer, des vides sécuritaires, si je peux dire ça ainsi. Le deuxième facteur, c'est la stratégie asymétrique des EDF. Les EDF ont décidé d'opérer, comme je venais de le signaler, en petits groupes. Et ceci rend difficile les opérations de traque parce que la zone est très vaste et les EDF connaissent très bien les terrains montagneux, les zones, ils ont grandi, ils connaissent, parce qu'ils se retendent souvent dans des coins les plus reculés ou des zones les plus montagneuses, ça où ils se cachent. Et c'est à partir de là qu'ils bougent pour mener les opérations. Or, la plupart de nos forces de sécurité qui viennent parfois de l'Ouest ne connaissent pas très bien la zone et ceci rend en quelque sorte leur action un peu plus inefficace. Il y a aussi des problèmes d'ordre technologique parce que la guerre d'aujourd'hui, c'est aussi les renseignements aériens qui doivent être au point pour fournir les renseignements qu'il faut à temps et pour que les opérations, par exemple, s'il faut des avions, il faut les localiser, tout ça. Il y a des problèmes logistiques qui ont été observés.
Au-delà des opérations militaires, quelles autres mesures les autorités devraient-elles privilégier pour mieux protéger les populations civiles et affaiblir durablement les ADF?
Je pense qu'il faut investir plus ou privilégier les mesures non militaires. Notamment, par exemple, il faut couper les commerces illicites des EDF. Parce que les EDF sont souvent dans les business illicites. Ils sont dans les commerces transfrontaliers. Et c'est les moyens qu'ils tuent de cette business-là qu'ils arrivent encore à financer leur mouvement. Et donc, si on améliore la gouvernance, si on améliore la présence de l'État, il ne faut pas qu'on laisse des vides sécuritaires. Il est possible donc de réduire la capacité des EDF à long terme. C'est si ces actions-là qu'il faut insister, je pense, et ceci peut avoir l'impact effectivement de réduire la capacité opérationnelle des EDF.
Papi Kasereka, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Papi Kasereka, analyste des crises et des conflits dans l'Est de la RDC, interrogé par Martial Papi et Mukiba. Merci de l'attention accordée à ce journal préparé par Jean Gando et Élisée Chikota Tivita avec Jean-Claude Siala à la mise en onde et Babel Pongo Massimango à la présentation. Bon après-midi.